أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc nous poursuivons, inshallah, la suite du cours sur l'au-delà. Nous avions parlé la dernière fois de la croyance en enfer et que l'enfer existe. Et que l'enfer existe actuellement, qu'il restera sans fin. Il y a aussi la croyance au pont, As-Sirat, qui est un pont qui surplombe l'enfer, et auquel les gens parviendront. L'une de ces deux extrémités est sur la terre changée, sur laquelle il y a le rassemblement. L'autre atteint le voisinage du paradis, et par-delà l'enfer. Les gens passeront le long du pont. Les croyants seront de deux catégories. Certains ne fouleront pas le pont, mais passeront par la voie des airs, en volant, à savoir les pieux et les vertueux. Et d'autres le fouleront. D'autre part, une partie de ceux qui le fouleront tombera en enfer, alors que les autres, Allah les en sauvera et seront épargnés de l'enfer. Les non-croyants tomberont tous en enfer, c'est-à-dire ils tomberont vers les portes de l'enfer pour entrer en enfer. Parmi les choses qui ont été rapportées, c'est que le pont est plus tranchant que l'épée et plus fin que le cheveu, dans un sens figuré, comme l'a rapporté Muslim de Abu Sa'id al-Khudri. Balaghani annahu adaqqu min ash-sha'rati wa ahaddu min as-sayf. Donc il a dit ce qui signifie, il m'est parvenu qu'il est plus fin que le cheveu et plus tranchant que l'épée. Mais cela n'a pas été rapporté avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au messager de Allah. La signification est un sens figuré pour dire qu'il est extrêmement périlleux. Ainsi, la facilité ou la difficulté pour le franchir est en rapport avec les actes d'obéissance et des péchés. Il a été rapporté dans le hadith, ayant une forte chaîne de transmission, que les gens seront portés par leurs œuvres. Cela signifie que leurs actes seront la force de leur déplacement. Il faut croire aussi au bassin, Al-Hawd. Le bassin est une vérité. C'est un lieu dans lequel Allah a préparé une boisson pour les gens du paradis. Ils en boiront avant l'entrée au paradis, après la traversée du pont. Sa longueur est équivalente à une distance de marche d'un mois, tout comme sa largeur. Les coupes disposées autour sont aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel. La boisson qui s'y trouve est plus blanche que le lait, plus sucrée que le miel et plus parfumée que l'odeur du musc. Allah a préparé pour chaque prophète un bassin. Le plus grand bassin est celui de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut croire aussi à l'intercession, ash-shafa'a. Nous devons croire à l'intercession qui aura lieu en faveur des musulmans seulement. Les prophètes intercéderont, les savants qui œuvrent pour la religion également, ainsi que les martyrs et les anges. De même, l'enfant qui meurt avant la puberté intercède en faveur de ses deux parents qui sont morts musulmans. L'intercession aura lieu pour les musulmans grands pécheurs. Personne n'intercédera au jour du jugement en faveur du non-croyant. Aucun prophète ni aucun ange, ni aucun savant n'intercédera en sa faveur au jour du jugement. Donc il n'y a pas d'intercession pour celui qui meurt non musulman. Donc l'intercession, c'est de demander le bien à autrui en faveur d'autrui. C'est la signification, le sens de l'intercession. Donc ceux qui intercèdent, ils vont demander à Allah le bien pour des musulmans désobéissants. L'intercession aura lieu en faveur des musulmans désobéissants qui faisaient partie des grands pécheurs et qui sont morts sans se repentir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Shafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati » ce qui signifie « Mon intercession est pour les gens de ma communauté qui ont commis les grands péchés » Hadith sur rapporté par Ibn Hibban. C'est-à-dire que les musulmans, en dehors de ceux qui ont commis les grands péchés, n'auront pas besoin d'intercession. Donc les pieux n'ont pas besoin d'intercession. Pour certains, L'intercession a lieu avant leur entrée en enfer. Donc l'intercession leur fait éviter l'entrée en enfer. Donc ils rentrent au paradis, mais ils n'auront pas le même niveau que les vertueux et les pieux au paradis. Pour d'autres, elle a lieu après leur entrée en enfer, mais avant que se soit écoulée la période qu'ils avaient méritée à cause de leur péché. Donc ils sortent de l'enfer avant que ne s'écoule la période qu'ils avaient méritée à cause de leur péché. Et l'intercession, bien sûr, c'est par la volonté de Allah. Il n'y a pas d'intercession en faveur des mécréants. Allah Ta'ala dit: «Wala yashfa'una illa liman irtada», ce qui signifie: «Et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il agrée», c'est-à-dire des musulmans. Sourate Al-Anbiya. Et le premier intercesseur qui intercédera, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous devons croire au paradis, donc on a vu ça dans les détails, donc que le paradis existe actuellement, qu'il restera sans fin, il est au-dessus du septième ciel, et le toit du paradis, c'est le trône, qui est le plus grand corps que Dieu a créé. Et bien sûr, Dieu n'a pas besoin du trône, Dieu existe avant les créatures, avant l'espace-temps, il existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Donc au paradis, la félicité est sensible, le musulman l'éprouve par le corps et par l'âme. Au paradis, il y a des degrés, certains sont plus élevés que d'autres. Le plus haut des degrés du paradis est celui des prophètes. Les gens du paradis ne ressentiront ni tristesse, ni chagrin. Ils ne tomberont pas malades, ils ne vieilliront pas, ils ne mourront pas, ils demeureront éternellement au paradis, ils n'en sortiront jamais, ils seront dans une félicité éternelle sans fin. Et on a vu que la plus grande félicité des gens du paradis, c'est qu'ils voient Allah sans comment, sans direction, pas comme sont vues les créatures. Et on a vu les détails sur cela et la parole de l'imam Abu Hanifa. Donc il a dit: «Wallahu ta'ala yura fil akhirati wa yarahu al-mu'minuna wa hum fil jannah bi'ayuni ru'usihim bila tashbihin wa la kamiyah wa la yakunu baynahu wa bayna khalqi masafa». Ce qui signifie: «Allah Ta'ala sera vu dans l'au-delà, les croyants le verront alors qu'ils seront eux au paradis avec les yeux de leur tête, sans aucune ressemblance ni aucune quantité, il n'y aura pas de distance entre lui et ses créatures». Donc ils le verront sans cerner sa réalité, sans quantité, sans direction, pas comme sont vues les créatures. Donc on croit en cela sans assimiler Dieu aux créatures. Dieu, on ne peut pas l'imaginer, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il ne change pas, il n'a pas de semblable, il n'a pas d'égal. Et il faut croire en l'éternité du paradis et de l'enfer. Donc on a vu cela, il est un devoir de croire que les gens du paradis demeureront éternellement au paradis et que les gens de l'enfer demeureront éternellement en enfer. Il n'y aura pas de mort après cela. Mais on a vu que les grands pécheurs, au final, ils sortiront de l'enfer. Ceux qui sont entrés en enfer sortiront pour aller au paradis. Et ce sont les non-croyants, les non-musulmans qui demeureront éternellement en enfer. Et on a vu les détails sur cela et les preuves du Coran et que celui qui renie cela, il n'est pas musulman. Donc les animaux n'ont pas de raison, ils ne vont pas rendre des comptes. Ils ne vont ni au paradis ni en enfer. Dans le hadith, il est cité que les animaux se rendent les coups entre eux. Il y aura le talion entre eux pour manifester la justice de Dieu. Et ils vont être transformés en terre. Et il est cité dans le Coran que le non-croyant souhaitera être transformé en terre, ceci quand il voit les animaux être transformés en terre. Ce qui indique que leur état est mieux que le non-croyant. Car la mécréance fait tomber dans le pire des états qui fait mériter le châtiment à l'éternité sans fin. Alors que les animaux ne vont pas en enfer. Ils vont être transformés en terre. Ainsi, le non-croyant dans l'au-delà souhaitera ne plus exister pour ne pas sentir la douleur insupportable sans fin. Ainsi, la mécréance est le plus grand péché et fait tomber dans le pire des états. Donc c'est pour cela, on a dit l'importance de préserver son islam et d'éviter les choses qui annule l'islam, paroles, actes et croyances qui annulent l'islam. Et si la personne elle est tombée dans cela, elle doit revenir à l'islam en attestant qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu, en délaissant la mauvaise croyance. Donc la fois dernière, nous avions vu la parole de certains savants musulmans qui expliquent l'apostasie, le blasphème, donc les choses qui annulent l'islam. Donc on a vu certaines paroles, donc à revoir, donc des savants des quatre écoles. Donc pour citer d'autres exemples, قال الفقيه الحنفي محمد أمين الشهير بابن عابدين المتوفى سنة 1252 هجري في كتاب رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ما نصه باب المرتد شرعا الراجع عن دين الإسلام وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان هذا بالنسبة إلى الظاهر الذي يحكم به الحاكم وإلا فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوى أن يكفر بعد حين. Donc le faqih Hanafi Muhammad, connu sous le nom d'Ibn Abidin, décédé en l'an 252 de l'Hégire, dans son livre Raddul Muhtar, al-Durr al-Muhtar, volume 6, page 354, page 354, a dit: le chapitre de l'apostat, c'est celui qui a quitté l'islam. L'apostasie advient par le fait de prononcer une parole de mécréance par la langue après avoir été croyant. Dans ce cas, le juge jugera que cette personne est non-croyante. Donc ici, il veut dire, ça c'est ce qui est apparent en fait, que le juge peut juger parce que c'est apparent. Par ailleurs, l'apostasie peut avoir lieu autrement, comme s'il a eu une mauvaise croyance. Personne n'est au courant de lui, mais lui, il a eu une mauvaise croyance. Et Dieu sait. Comme s'il a eu une mauvaise croyance ou qu'il a mis l'intention de devenir non-croyant dans le futur. Approuver la mécréance, c'est de la mécréance, et vouloir faire la mécréance, c'est de la mécréance. Donc un autre exemple, le Cheikh Mulla Ali Al-Qari, le Hanafi, décédé en l'an 1014 de l'Hégire, a dit dans son livre le commentaire de Fiqh Al-Akbar de l'imam Abu Hanifa, page 274, ثم اعلم أنه إذا تكلم بكلمة الكفر عالما بمعناها ولا يعتقد معناها لكن صدرت عنه من غير إكراه بل مع طواعية في تأديته فإنه يحكم عليه بالكفر. Donc il a dit, sache que si une personne prononce une parole de mécréance en connaissant son sens et sans croire en son sens, elle devient non-croyante. Même si elle n'y croit pas, mais elle comprend le sens, mais elle n'y croit pas, elle devient quand même non-croyante. Comme s'il dit à quelqu'un fils de Dieu, même s'il croit dans son cœur que Dieu n'a pas de fils, mais il l'a dit, il sort de l'islam. Donc ce jugement s'applique dans le cas où la personne dit délibérément et non pas en étant menacée de mort. Donc on a vu, si la personne est menacée de mort, comme cela est arrivé au compagnon Ammar, fils de Yasser, il est menacé pour dire telle parole, il l'a dit sans y croire, c'est la condition, sans l'approuver. Il ne sort pas de l'islam parce qu'il est menacé de mort de quelqu'un qui est sérieux pour le tuer. Donc il a dit cela sans y croire, ça c'est l'exception citée dans le Coran, quand il est menacé de mort. Mais s'il ne répond pas, il meurt, c'est mieux, il meurt martyr. Mais quelqu'un qui n'est pas menacé de mort, il dit la mécréance, même s'il n'y croit pas, même s'il n'est pas satisfait de cela dans son cœur, il sort de l'islam quand même. Il n'a pas d'excuse. Comme on a vu dans le hadith, qui signifie que certes la personne prononce une parole dans laquelle elle ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle elle chutera en enfer 70 tonnes. D'autres exemples aussi, il est rapporté dans le livre Al-Fatawa al-Hindiya, dans l'école de Abu Hanifa. Ce livre a été composé par un groupe de savants de l'Inde, avec la présidence du Cheikh Nizam al-Din al-Balkhi, volume 2, page 259-261. Donc il est cité... يكفر بإثبات المكان لله تعالى وكذا إذا قيل لرجل ألا تخشى الله فقال في حالة غضب لا يصير كافرا كذا في فتاوى قاضي خان. Donc il donne des exemples dans ce livre. Devient non croyant celui qui a attribué à Dieu l'endroit, attribué à Dieu l'espace, le temps, la localisation, la direction, c'est du shirk bien sûr. Et de même, si une personne a été interrogée, ne crains-tu pas Allah, et qu'il a dit dans l'état de la colère, non, elle devient non-croyante, comme cela est mentionné dans Fatawa Qadi Khan. Donc ça, c'est des exemples qu'il cite. Et le savant très connu, Al-Qadi Iyad Al-Maliki, décédé en 544 de l'Hégire, dans son livre très connu, Ash-Shifa, partie 2, page 214, a dit: celui qui insulte le prophète, ou le rabaisse, ou le ridiculise, ou lui attribue une bassesse concernant sa personne, ou son ascendance, ou ses actes, ou n'importe desquels de ses caractéristiques, a commis la mécréance. Muhammad ibn Sahnoun a dit, donc c'est un grand savant enterré à Qayrawan, donc a dit, les savants sont unanimes que quiconque insulte le prophète ou qui le rabaisse est un non-croyant. Il est menacé du châtiment de Allah. Ça veut dire, s'il meurt comme ça, il mérite le châtiment à l'éternité en enfer. Et quiconque doute de sa mécréance et de son châtiment devient non-croyant. Douter de la mécréance de celui qui a fait une mécréance claire et de la mécréance. Donc le cheikh Abu Abdillah Muhammad Ahmad Illaish al-Maliki, le mufti des contrées égyptiennes, décédé en 1299 de l'Égypte, a dit dans son livre Minahul Jalil ala Mukhtasari al-Allamati Khalil, partie 9, page 205, il a dit, c'est de la mécréance claire, celui qui dit je suis non-croyant en Allah, ou en le messager de Allah, ou en le Coran, ou celui qui dit que Dieu est deux ou trois, ou celui qui dit Jésus est le fils de Dieu, ou Uzair est le fils de Dieu, ou celui qui renie quelque chose qui fait partie de la religion, selon l'unanimité qui est connue d'évidence dans la religion, car ceci implique le démenti du Coran ou du messager, ou le fait de croire que Allah est un être qui est localisé, ou de faire un acte de mécréance comme de jeter le Coran dans les ordures. Donc voilà les exemples. Donc comme on a vu, on ne peut pas jeter ce qui est honoré dans les ordures. Le nom de Allah, les ayats du Coran, on brûle les feuilles, on coupe. S'il y a peu de lettres, on peut couper, on sépare les lettres. Donc il y a d'autres exemples très importants. Il y a Dimyati, décédé en 1310 de l'Égypte, dans I'anatu Talibin. Il dit « Wa'alam annahu yajri ala al-sinati al-ammati jumlatu min anwa' al-kufri min ghayri an ya'lamu annaha kadhalika » Il sache que des gens du commun disent certaines paroles de mécréance sans qu'ils sachent que c'est de la mécréance. فَيَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُبَيِّنُوا لَهُمْ ذَلِكَ Il dit, il est un devoir sur les gens de science qu'ils leur montrent cela. C'est pour cela qu'il donne ces exemples, les savants. Parce que c'est un devoir sur eux. Il a dit, puissent-ils l'éviter s'ils ont su? Parce qu'en connaissant, c'est une cause, la connaissance, pour éviter. Il a dit, لَعَلَّهُمْ يَجْتَنِبُوهُ إِذَا عَلِمُوهُ لِأَلَّا تَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ وَيُخَلَّدُونَ فِي أَعْظَمِ الْعَذَابِ وَأَشَدِّ الْعِقَابِ Il a dit pour qu'ils ne perdent pas la récompense de leurs actes, parce que la mécréance fait perdre les récompenses, et qu'ils ne restent éternellement dans le plus dur des châtiments et la pire des rétributions. Il a dit connaître cela est quelque chose de très important. C'est pour cela qu'on le montre. Et il explique parce que celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Il lui ne le sait pas. Il a dit tout mal et sa cause c'est l'ignorance. Et tout bien, sa cause est la connaissance. فهو النور المبين والجهل بئس القرين. Il a dit la connaissance est la lumière. C'est la lumière claire. Et l'ignorance, quel mauvais compagnon. Et Muhammad Murtada al-Zabidi, il dit dans son livre إتحاف السادة المتقين وقد ألف فيها كلمات الردة غير واحد من الأئمة من المذاهب الأربعة رسائل وأكثر في أحكامها. Il a dit, beaucoup des savants des quatre écoles ont composé des épîtres et des écrits sur le jugement de l'apostasie. Ils ont détaillé les jugements de l'apostasie. Tadouddin al-Subki, dans Muqaddimat al-Tabaqat, a dit, pas de divergence chez Al-Ash'ari et ses compagnons, et même chez tous les musulmans, que celui qui prononce de la mécréance ou fait les actes des non-croyants, qu'il est non-croyant en Allah l'éminent, qu'il demeurera éternellement en enfer, même si son cœur a connu la vérité et que cette connaissance ne lui sera d'aucun secours s'il s'entête et ne lui sera d'aucune utilité. Deux musulmans ne divergent pas à ce sujet. Donc l'Ash'ari, on a vu, c'est le grand savant de Ahl-Sunnah, comme Al-Maturidi. Ce sont des savants qui ont composé, détaillé sur la croyance et répliqué aux sectes égarées qu'on a dit, qui sont contraires à la voie sunnite. Donc ils ont répliqué à ces sectes-là, comme le Mu'tazila, le Mushabbiha, ceux qui assimilent Dieu à ses créatures. C'est pour cela, les sectes n'aiment pas Al-Ash'ari et Al-Maturidi, ils les déclarent comme égarés, parce qu'ils donnent beaucoup de preuves contre ces sectes-là, notamment la secte Wahhabiyya, qui n'aime pas l'imam Al-Ash'ari parce qu'il a répliqué à leurs ancêtres, Al-Mushabbiha, ceux qui assimilent Dieu à ses créatures. Ces exemples de paroles de savants montrent aussi le fait que celui qui meurt mécréant, il reste éternellement en enfer. Donc c'est pour cela qu'on a cité cela. Donc l'illustre savant Muhammad Mayyar al-Maliki, mort en 1072 de l'Hégire, dans son livre Ad-Durr al-Thamin ou Al-Mawlid al-Ma'in, commentaire de Al-Murshid al-Mu'in ala al-Daruri min ulum al-Din, du Sheikh Abdul Wahid ibn Ashar al-Ansari al-Ash'ari al-Maliki, que Allah leur fasse miséricorde à tous deux, a dit. Donc ça on l'a cité parce que c'était le livre enseigné dans tout le Maghreb dès 7 ans. Batn ibn Ashar, le traité de Ibn Ashar. Et là c'est le commentaire écrit par Mayyara. Il dit: المعرفة الواجبة هي الجزم المطابق عن دليل فخرج بالجزم من كان إيمانه على ظن أو شك. Il dit la connaissance obligatoire c'est la certitude conforme à la réalité avec une preuve. المعرفة الواجبة هي الجزم المطابق عن دليل. Donc est exclu par la certitude celui qui a une foi basée sur une supposition ou un doute ou une illusion. فخرج بالجزم من كان إيمانه على ظن أو شك أو وهم فإيمانه باطل بإجماع. Est exclu par la certitude celui qui a une foi basée sur une supposition ou un doute ou une illusion, ainsi sa foi est invalide selon l'unanimité. Donc c'est des points très importants. وخرج بوصفه بالمطابق الجزم غير المطابق. De même est exclu par le fait d'être conforme à la réalité ce qui n'y est pas conforme. Et cela est appelé la fausse croyance. Et l'ignorance multiple. C'est-à-dire, il est ignorant, il sait pas qu'il est, il croit qu'il sait. Ça s'appelle en arabe, jahl murakkab. Ignorance multiple. Il est ignorant, et il ignore qu'il est ignorant. C'est pour ça, murakkab, composé. C'est une ignorance composée. Et là, il dit, كاعتقاد الكافرين التجسيم والتثليث. أو نحو ذلك. والإجماع على كفر صاحبه أيضا وأنه آثم غير معذور مخلد في النار اجتهد أو قلد ولا يعتد به بخلاف من خالف في ذلك من المبتدعة. Donc on répète, de même est exclu par le fait d'être conforme à la réalité ce qui n'y est pas conforme, et cela est appelé la fausse croyance et l'ignorance composée ou multiple, telle la croyance de ceux qui attribuent à Dieu le corps ou la Trinité ou ce qui est du même genre, et l'unanimité est sur le fait que celui qui suit cela est non-croyant, et qu'il est dans le péché, et n'a pas d'excuse, et restera en enfer, qu'il ait fait un effort de recherche pour adhérer à cela, ou qu'il ait suivi d'autres en cela. Donc, que ce soit lui qui a trouvé cette croyance tout seul en cherchant, ou qu'il a imité d'autres. Dans les deux cas, il n'a pas d'excuse. Et on ne prend pas en considération sa voix. Et cela n'est pas pris en considération, contrairement à l'avis des mauvais innovateurs qui ont contredit cette règle. Donc il a dit, on ne prend pas en considération cela. On ne dit pas, c'est parce qu'il a cherché la vérité et puis il a adoré une statue qu'il est excusé parce qu'il a cherché la vérité. Il n'est pas excusé. Donc, et cela est cité dans le Coran. On a vu le verset dans Surat Al-Kahf qui nous apprend qu'il y a des gens qui pensent faire le bien et ils sont égarés. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Il y a des gens égarés, il y a des gens égarés, et eux, ils pensent faire le bien, alors qu'ils sont égarés, et leurs œuvres sont vaines. Ils sont perdants dans l'au-delà. Il y a aussi la règle très importante du Coran et du Hadith. Il y a aussi une règle très importante citée par le Hafiz, le Faqih Muhammad Murtada Az-Zabidi, qu'on a vu. Dans le deuxième volume du commentaire de Ihya Ulumuddin, il dit: celui qui veut que les esclaves de Allah commettent la mécréance est lui-même mécréant, sans aucun doute. Donc c'est une règle unanime chez les savants des quatre écoles. Elle est tirée du Coran. Donc il donne le verset, et c'est ainsi que s'explique la parole de Allah Ta'ala: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ce qui signifie: n'insultez pas les idoles que les idolâtres adorent au lieu d'adorer Allah, car ils risqueraient ainsi d'insulter Allah par injustice et ignorance. Sourate Al-An'am. Donc on ne peut pas pousser quelqu'un à faire de la mécréance par un quelconque moyen. Et la règle: aider à la mécréance, c'est de la mécréance, et approuver la mécréance est de la mécréance. Donc faire attention à cela. Il faut préserver son islam. Allah Ta'ala dit: wala tamutunna illa wa antum muslimun. Il ne mourrait qu'en étant musulman. Donc il faut éviter ce qui annule l'islam. Donc apprendre les règles pour bien comprendre cela. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: man yuridillahu bi khayran yufaqihu fid-din, c'est-à-dire: celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Et la science de la religion s'acquiert par chaîne de transmission auprès des gens de la connaissance. Donc révisez bien. Donc nous poursuivons sur la langue arabe, insha'Allah, et nous sommes arrivés à la lettre Rain. Ra, rou, ri. Donc c'est pareil que le A, sauf qu'il y a un point. Ra, rou, ri. Ra, ra, rou, ri. Ursum da'iratan hawla al-harfi ra. Dessine un cercle autour de la lettre Rain. Maghribun, coucher du soleil, couchant. Ghazalun, gazelle. Ghabatun, forêt. Sagirun, petit. Ghurabun, corbeau. Samrun, col. Il a d'autres sens aussi. Ghaslun, lavage. Babbaraou, perroquet. Ghururun, prétention. Rabaon, imbécilité, stupidité. Raron, grotte. Raimaton, nuage. Barlon, mulet. Rinaon, chant. Oktub harf al-ghayni hasab al-amfilati al-taliya. Écris la lettre ghayn selon les exemples suivants. Donc on a vu ra, donc avec la prolongation. Ra, rou, ri, donc à la fin attaché, et quand c'est pas attaché, ra, ra, rou, ri, ir, au milieu, comme le a, avec un point. Ra, rou, ri, donc ra-i-ri. Donc le ra, il est dans la fatiha. Ra-i-ri, ra-i-ri-l-mar-dou-bi. Ghayril-maghdoubi, pour s'entraîner. Ghayril-maghdoubi. Ghayril-maghdoubi alayhim walad-dallin. Ghayril-maghdoubi alayhim walad-dallin. Donc, comme on l'a dit, il est important de bien maîtriser la Fatiha pour la validité de la prière. Donc revoir les autres cours. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wassalamu alaykum.